Arthur Berned, l'assassinat du courrier de Lyon. Chapitre 1. Au relais de poste de la rue Mellet, un étrange voyageur, l'attaque de la diligence, la découverte du crime, première enquête. Le 8 floréal de l'an 4 de la République, c'est-à-dire le 27 avril 1796, vers 5h du soir, dans la cour de la Poste aux Lettres, qui était installée alors dans les dépendances de l'hôtel du Plat d'Étain, à l'angle de la rue Saint-Martin et de la rue Mellet, une foule agitée se pressait autour de la malle-poste de Lyon. Les palefreniers, sous la surveillance du postillon, étaient en train d'atteler deux robustes chevaux, de taille dragon et à tout crin, au véhicule, sorte de fourgon léger à deux roues, recouvert d'une bâche tendue en voûte sur des arceaux de bois et muni à l'arrière d'un coffre élevé. Des employés, affairés, apportaient les sacs de dépêche où finissaient les paquets. C'étaient des lettres pour l'armée d'Italie, lettres de mère, de sœur ou d'amante, portant au-delà des Alpes un peu de pays à ceux qui, à pas de géant et au cri de « Vive la République !», marchaient à la gloire. C'étaient des messages du gouvernement à ses généraux de 20 ans qui conduisaient à la victoire leurs soldats en haillons. Et tout cela s'amorçait en paquets enveloppés de gros papiers gris et que ficelaient d'une main preste les 4 employés du bureau de départ sous la surveillance d'un inspecteur. Près d'eux, le citoyen ex-coffon, le courrier de Lyon, un homme de taille moyenne, au visage ouvert et sympathique, au regard énergique et loyal, écoutait, avec un sourire un peu mélancolique, sa femme qui lui adressait ses affectueuses recommandations. « Fais bien attention, lui dit-elle. Je ne suis jamais tranquille quand je te vois partir ainsi. On lit dans les journaux tant de récits de brigands que j'ai toujours peur qu'il ne t'arrive malheur. » En effet, au moment où débute cette authentique et si émouvante histoire, les fameuses bandes des chauffeurs, des compagnons, des chouans terrorisaient la France et chaque jour était marqué par un ou plusieurs exploits de ces véritables associations de malfaiteurs qui, sous le couvert de servir des intérêts politiques, non seulement pillaient les caisses de l'État, mais rançonnaient, volaient et massacraient sans pitié les simples particuliers. Ex-coffon répliquait, avec une assurance dénuée de toute forfanterie, « Tranquillise-toi, je me tiendrai sur mes gardes. Je suis armé jusqu'aux dents et je suis de taille à me défendre. Et c'est justement quand on n'a pas peur qu'il ne vous arrive rien. Emmenez-vous des voyageurs ? Un seul. » Et désignant à sa femme, un homme d'une 50aine d'années, de haute stature, le visage plein, vêtu d'une redingote brune sous laquelle on apercevait un sabre, et qui depuis quelques instants se promenait dans la cour, la tête baissée, l'air rêveur, son chapeau rond rabattu sur les yeux, le brave garçon dit à sa femme « Le voici ». Le voyageur s'approchait et, d'un ton peu engageant, demandait au courrier, en lui désignant la malle-poste qu'on était en train d'atteler et de charger.
« C'est bien la voiture qui va à Lyon. »
« Oui, » répondit un employé de la poste qui passait là. « Si vous avez des bagages, vous ferez bien de me les donner, car on n'attend plus, pour partir, que la trésorerie nous apporte ses boîtes, et elle ne saurait tarder. » L'homme fit.
« Je vous remercie, je n'ai que ma personne à emmener. »
Et il se remit à arpenter la cour. La citoyenne ex-coffon murmura « Il a une tête qui ne me revient pas. » Son mari allait lui répondre, mais un grondement de roue se fit entendre. C'était le fourgon de la trésorerie nationale qui pénétrait dans la cour. Aussitôt, les commis de la trésorerie en sortaient des boîtes de bois contenant 7000 assignats destinés à l'armée d'Italie et les remettaient aux employés de la poste, qui les transportaient à l'intérieur du coffre, qu'ils fermèrent à l'aide de fortes serrures, renforcées par de solides courroies de cuir, et où il y avait déjà 10 000 francs en numéraire, et 792 000 francs en assignats, mandats, promesses de mandats, marchandises et bijoux. Pendant ce temps, le mystérieux voyageur s'était rapproché et, d'un air moins rébarbatif, il lui lançait « Tout ça va partir avec nous ?»«
Mais oui, » répliquait le courrier.
« La République pourrait tout de même bien vous donner une escorte. »«
J'ai mon sabre, » fit l'inconnu, « et je vous prie que je sais m'en servir à l'occasion. »«
Faut espérer qu'on n'en aura pas besoin, » répliquait Excoffon.
« Mais c'est pas tout ça. Nous avons encore un bon moment avant que tout soit chargé. Nous allons souper.
Viens-tu, Marguerite ? Et vous, citoyen ?
C'est pas de refus. »
Et ils entrèrent tous trois au plat d'étain. Lorsque, une demi-heure après, le courrier, sa femme et le voyageur reparurent dans la cour, ils s'entretenaient cordialement et semblaient devenus les meilleurs amis du monde.
« Allons, Nantôt, en route !» lançait Excoffon à un postillon au gilet rouge, à la veste bleue à boutons d'or, galonné au collet et plus encore dans le dos, et les boutons à la culotte en peau de daim et aux lourdes bottes à l'écuyère.
Nantôt, lestement, sauta en selle, et tandis que le courrier disait au revoir à son jeune fils qui venait d'accourir, le voyageur demandait à madame Excoffon « Citoyenne, voulez-vous me permettre de vous embrasser ?»
« Très volontiers, citoyen. »
Après avoir serré à son tour sa femme dans ses bras, Excoffon grimpait dans la malle-poste et s'effaçait pour laisser son compagnon s'installer sur une banquette en bois, suspendue par des lanières. Il s'asseyait lui-même sur une autre banquette placée à l'avant et d'où il pouvait aisément observer la route. Nantôt fit claquer son fouet. Les chevaux agitèrent leurs grelots, et le véhicule, contournant la rue Mellet, gagna le boulevard du Temple dans la direction de la porte Saint-Antoine. Le premier relais se trouvait à Villeneuve-Saint-Georges. Là, on changea de chevaux, et le postillon Nantôt fut remplacé par son camarade Étienne Audebert. Après qu'Excoffon eut vidé, en compagnie de son voyageur, une chopine de vin blanc, la malle-poste se remit en route vers Melun et traversa la forêt de Sénart sans encombre. L'inconnu, qui se faisait appeler la Borde, ne cessait de tourmenter la poignée de son sabre. De temps en temps, il protestait contre l'insécurité des routes et s'indignait de l'incurie du gouvernement, qui n'avait même pas, dans des temps aussi troublés, l'idée de faire accompagner par deux gendarmes une diligence qui renfermait dans ses flancs un véritable trésor. Quant au courrier et au postillon, tous deux, l'œil et l'oreille aux aguets, ils veillaient, prêts à se défendre avec ce courage admirable des humbles qui considèrent que le dépôt qui leur est confié est encore plus sacré que leur existence. Jusqu'à Lieu-Saint, à cette époque on disait Lieu-Saint, tout se passa sans encombre. Après une halte rapide, la malle-poste se remit en route, lorsque, à trois quarts de lieue de là, entre une auberge qu'on appelait la Fontaine Nord et une autre appelée le Commissaire Général, à la hauteur d'un petit pont de pierre surplombant un ruisseau qui va de Pouilly-le-Port à Savigny, quatre cavaliers, surgissant des ténèbres, entouraient le postillon. L'un d'eux lui ordonnait d'une voix impérieuse
« Rends-toi !»
D'un vigoureux coup de fouet, Audebert cinglait le visage de son agresseur, mais celui-ci lui envoyait un coup de pointe de sabre en pleine figure, et le mystérieux voyageur, se jetant sur Excoffon avant qu'il ait pu se mettre sur la défense, lui enfonçait par trois fois son sabre dans la poitrine. Bien que grièvement atteint, le postillon n'avait pas vidé les étriers, et, fermant selle, il continuait à opposer à ses assaillants une défense aussi valeureuse que désespérée. Mais que pouvait-il contre quatre brigands décidés à tout? Déjà, deux d'entre eux, qui avaient mis pied à terre, saisissaient par la bride les chevaux de la malle-poste qu'ils entraînaient hors de la route, à l'orée d'un petit bois, dans le lieu dit le Closot. Le postillon continuait à se débattre avec une énergie surhumaine, mais bientôt, il roulait à terre, luttant encore, perdant ses bottes,
cherchant encore à frapper et à mordre ses assassins, jusqu'au moment où une main abattue, le crâne ouvert et le corps saignant de multiples blessures, il rendit le dernier soupir. Pendant ce temps, le pseudo-Laborde, après avoir traîtreusement poignardé le malheureux courrier, s'efforçait de lui couper le cou avec son sabre. Leur double crime accompli, les misérables se livraient à un pillage en règle de la diligence. Puis, les poches pleines de numéraires et d'assignats, les quatre cavaliers remontaient à cheval et le voyageur mystérieux, s'emparant de la monture du postillon, sautait en selle et disparaissait dans la nuit avec ses sinistres compagnons. Le lendemain matin, vers 4h30, au point du jour, des paysans qui se dirigeaient vers le pont du Pouilly aperçurent le véhicule que les bandits avaient abandonné après avoir enlevé leur butin. Un cheval y était encore attelé. Reconnaissant tout de suite la malle-poste qui faisait le service des dépêches entre Paris et Lyon, ils soupçonnèrent qu'elle avait dû être attaquée par des malandrins. Leur doute allait immédiatement se changer en certitude. En effet, à quelques pas de la voiture, gisait un premier cadavre, celui du postillon Audebert, horriblement mutilé, et, un peu plus loin, près du pont, un second, non moins tailladé, celui du courrier Excoffon. Un instant, ils demeurèrent figés d'horreur. Puis, deux d'entre eux s'en furent à Lieusaint, distant d'environ trois quarts de lieue, prévenir le maître de poste, le citoyen Duclos, inquiet de ne pas encore avoir vu rentrer son postillon et ses chevaux, qui, la veille au soir, avaient emmené la malle sur Melun. À la nouvelle du drame, Duclos sautait en selle et, en moins de 10 minutes, arrivait sur le théâtre du crime. Après avoir reconnu son cheval, puis son postillon et son courrier, il filait immédiatement sur Melun, où il alertait le citoyen Defin, accusateur public, près le tribunal criminel de Seine-et-Marne. Ses fonctions correspondaient à celles de procureur de la République. En l'absence du juge de paix de Boissise-le-Bertrand, sur le territoire duquel le crime avait été commis, ce magistrat chargeait de l'enquête le juge de paix de Melun, et tout de suite, avec ce dernier, il partait en berline au Closot. Accompagné du commissaire du pouvoir exécutif, du juge de paix Beau, d'un officier de santé, du directeur et du contrôleur de la poste, et, escortés de 2 gendarmes, les représentants de la justice commencèrent par s'occuper des 2 victimes. Ils constatèrent que les cadavres étaient rigides. Le crime avait dû être commis 1 demi-heure environ après le relais de Lieusaint. Le corps du malheureux Audebert était littéralement poché de coups de sabre. Autour de lui, l'herbe foulée gardait la trace de pas nombreux et révélait une vigoureuse résistance. Quant au malheureux ex-coffon, il portait au cou 2 piqûres profondes faites par un instrument à lame tranchante et effilée. La trachée artère avait été complètement divisée. Le buste était percé de 3 autres coups. Le vol apparut aussitôt comme le mobile de ce double et effroyable assassinat. En effet, parmi les lettres et les papiers épars, le directeur de la poste ayant découvert la feuille de service d'ex-coffon, qui constatait une remise de 10 000 francs en numéraire et de plusieurs milliers en assignats, la montrait à l'accusateur public et au juge de paix en disant « Voyez, citoyen, cette empreinte sanglante d'un doigt marquée par place, cela prouve qu'un des meurtriers a fait l'appel des objets indiqués comme remis au courrier, pendant que ses complices cherchaient et ouvraient les paquets. » Les faits allaient d'ailleurs confirmer immédiatement cette judicieuse hypothèse. En effet, un rapide examen suffisait à faire constater au magistrat que la plupart des paquets que renfermait la malle-poste avaient été éventrés et que l'argent, ainsi que les assignats, avaient disparu. Pendant ce temps, les gendarmes n'étaient pas demeurés inactifs. En furetant, ils avaient fait de précieuses et significatives trouvailles. D'abord, les grosses bottes d'Audebert dont l'une était encore pleine de sang, puis une houppelande grise bordée d'un liseré bleu foncé qui ne pouvait appartenir ni au courrier ni au postillon, et près de la houppelande, un sabre cassé et son fourreau. La lame, rougie par place, portait pour devise d'un côté « L'honneur me conduit » et de l'autre « Pour le salut de ma patrie ». On trouva encore dans l'herbe un second fourreau de sabre, une gaine de couteau à découper et enfin un éperon raccommodé avec de la ficelle, pièce à conviction qui devait jouer un rôle si important dans cette tragique histoire. Bientôt, le juge de paix donnait l'ordre aux gendarmes de retrouver les traces des assassins et d'interroger toutes les personnes qui, le soir du 8 Floréal, avaient pu se trouver sur la route de Melun. Et dans son numéro du 10 Floréal, le messager du soir publiait l'information suivante. Le courrier de Lyon, le citoyen Excoffon, a été assassiné hier à 11h du soir au sortir de la forêt de Sénard, près de Melun, ainsi que le postillon, par plusieurs scélérats. C'est le maître de poste de Lieursaint qui est venu annoncer cette fameuse nouvelle à l'administration des postes. Un point, c'est tout. 5 lignes, pour révéler au public un aussi atroce forfait qui, depuis 134 ans, tant que par l'horreur qu'il inspire que par les tragiques conséquences qu'il devait entraîner, a bouleversé et bouleverse encore tant de consciences. En attendant, la police était en marche, les gendarmes sillonnaient la campagne, l'affaire du courrier de Lyon commençait.